Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue à Pavillon Nomade, la radio follement normale où les idées fuisent et où les micros ne tiennent pas en place, un espace de partage, d'écoute et de réflexion. Nous avons le plaisir d'être en direct depuis la buvette du quartier culturel de Malévaux jusqu'à 16h30, en votre compagnie et de nos participants du jour avec Christelle, Samuel, Mariana, Véronique, Jean-François et nos deux Christine. D'ailleurs, 24 juillet, c'est la fête des Saintes Christine. Bonne fête à toutes les Christine qui nous écoutent, à toutes les Christine ici autour de la table. Bienvenue. Aujourd'hui, nous vous proposons d'échanger autour de différents thèmes, comme tous les jeudis, et de partir aussi à la rencontre d'une artiste qui va nous rejoindre dans un deuxième temps, Marie-Catherine Barras. Aujourd'hui, Christelle, bonjour.
Bonjour, Jimmy.
Alors Christelle, on vous entendait à peine dans le micro.
Bonjour à tous et à toutes.
Ah, ça y est, c'est parti. Bonjour Christelle. Christelle, alors au début d'émission, en off, on était en train de se demander si finalement Christine, Christelle étaient des pas très loin. Eh ben, vous savez quoi, j'ai envie de vous souhaiter aussi une bonne sainte Christine parce qu'on n'est pas si loin que ça.
Merci Jimmy.
Christelle, comme d'habitude, vous nous proposez différents thèmes. Aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi ?
Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la gratitude. Parce que pour moi, c'est une chose qui compte beaucoup dans ma vie. Et rien que le fait de se lever le matin est une forme de gratitude. La santé, de vivre, tout simplement, d'avoir un réseau d'amis et d'avoir la gratitude le soir de remercier cette belle journée que nous avons passée tous ensemble et partagée avec des moments d'amitié très intenses.
Bah, ça, c'est déjà, bah, je vois, en tout cas, j'ai vu, alors oui, on peut applaudir, hein. Je voyais quand vous parliez, je voyais les yeux qui pétillaient de Véronique, de Mariana. Comment vous avez envie de rebondir après ce début d'émission avec ce joli thème sur la gratitude? Véronique, on vous écoute.
Alors déjà, merci Christelle pour le sujet. Pour moi, la gratitude, effectivement, c'est la définition que tu viens de donner. Et c'est aussi pour moi prendre conscience, en fait, de ce qui est beau autour de nous, de s'en rendre compte et de l'apprécier à sa juste valeur et de ne pas trop s'attarder sur ce qui est négatif autour de nous, mais plus s'attarder sur ce qui est positif, ce qui nous apporte de positif et ce qui nous fait avancer.
Ce qui nous apporte de positif et nous fait avancer. Est-ce que d'autres personnes ont envie de rebondir finalement pour donner leur définition? Christine, on vous écoute. Alors, comment on va vous différencier de Christine, de Christine?
Numéro 1, numéro 2.
Ah, alors, ouais, ça ne fait pas tellement... Alors...
La blonde, la brune.
Alors, on essaiera de trouver. Christine, on vous écoute.
Alors, pour moi, dans le mot gratitude, il y a le mot gratuit. Toute personne devrait se réveiller le matin de bonne humeur, en ayant bien dormi et en ayant envie de faire plaisir à tout le monde, un petit garçon, une mémé, lui porter son sac. La gratitude, voilà, tout simplement, gratuit, pour faire plaisir et pour avoir le comeback. Et les sourires des enfants ou des personnes âgées avec qui on discute peut-être 5 minutes sur un banc parce qu'elles sont seules. C'est aussi simple que ça.
Gratuit, gratitude, faire plaisir à l'autre, se faire plaisir, donner du temps, Christelle?
Moi, je dirais la gratitude envers soi aussi. L'estime de soi et être soi-même aussi.
C'est-à-dire, parce que là, vous utilisez des termes, des mots. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi quand vous dites l'estime de soi?
L'estime de soi, pour moi, c'est me valoriser au lieu de me dénigrer, m'aimer tout simplement pour ce que je suis et avec ce que je peux apporter aussi aux autres et partager avec les autres personnes autour de moi et être en amour et en bienveillance.
Oui, bienveillant envers soi. Moi, je disais souvent, je me conjugue bien même à l'imparfait. Bah oui, alors c'est un petit jeu, mais pour dire que finalement, ce qui est peut-être une qualité pour certains, bah, pour d'autres peut-être... un défaut, alors si on peut le dire comme ça, où il y a des choses sur lesquelles on dit, ah, mais moi je suis pas bien là. Tout dépend de comment on se positionne et comment on est. Christine, je vous en prie, prenez le micro.
Moi je vous conjugue, je rigole, je vous conjugue au futur antérieur.
Oh, alors là on est dans un échelon encore au-dessus. C'est vrai que quand on finit une journée, on a tendance souvent à se remémorer de ce qui n'a pas joué. Oh, j'ai pas fait ci, oh, j'ai pas fait ça, oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et finalement, on s'endort avec presque, on renforce un peu ces schémas de pensée négatives. Et il y a des études qui démontrent qu'on devrait, avant de dormir, alors c'est gratuit hein, ce que vous donne quand même, c'est pas non plus magique, mais on devrait plutôt, alors c'est toujours le même adage, je vois le verre vide ou à moitié plein, mais des fois, le soir, on devrait aussi peut-être se remémorer de ce qu'on a fait de bien dans la journée, de ce qui a été de bien, puis des fois, de se dire que d'avoir fait trois trucs de bien, de se remémorer, bah, ça permet de dormir aussi dans un autre état d'esprit. Mariana, je vous vois hocher de la tête, je vous laisse rebondir peut-être.
Moi, pour moi, la gratitude, c'est aussi la gratitude envers la nature qu'on a, la nourriture qu'on a tous les jours. Et puis voilà, parce que je me dis qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas tout ça. Et voilà.
C'est vrai, c'est être conscient de ce qu'on a et de alors des fois on dit oui, ça sert à rien d'aller voir plus loin ce qui va pas pour se prendre conscience de ce qu'on a, mais c'est vrai qu'on doit quand même prendre conscience que on a quand même beaucoup de chance. Hein. Je rappelle à tous ceux qui sont sur de la table, mais aussi à nos auditeurs auditrices, c'est que on a de la chance. On rentre dans une salle de bain, on est dans une cuisine, on tourne l'eau, on a de l'eau qui coule fraîche, on a de l'eau qui coule chaude rapidement. Il y a des régions dans lesquelles j'ai vu, ils font des fois 30 à 1 heure de marche à pied, des fois même sans chaussures, pour remplir des jarres d'eau, des vases, pour pouvoir simplement faire les actions de la vie quotidienne. Hein. Donc oui, c'est vrai, on doit être conscient de ça. Samuel, selon vous, la gratitude, quand on utilise ce terme ou quand vous l'entendez, qu'est-ce que ça évoque pour vous ?
Pour moi, faut avoir de la gratitude envers ses parents, ceux qui nous ont éduqués, et envers nos proches. Je pense que c'est important pour moi.
Ouais, mais merci de votre partage. Pourquoi c'est important pour vous ?
Parce que c'est la famille et que ouais, c'est important de les remercier de comment ils nous ont éduqués, comment ils nous ont aidés.
Ouais. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Alors, on doit pouvoir se remercier tous ensemble parce que je pense finalement qu'on a tous plus ou moins à un moment aidé ou été aidé par quelqu'un et on doit faire preuve de gratitude envers tout ça. Peut-être c'est une des pistes hein, d'ailleurs qui sera peut-être dans un thème qu'on abordera un petit peu plus tard dans l'émission sur l'éthique. On n'est pas si loin peut-être déjà des petites pistes de réflexion, mais merci. Alors, je ne sais pas, Jean-François, vous qui êtes présent, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue.
Bienvenue, oui.
Pour vous, vous êtes autour de la table, vous faites. Oh, on a quand même pas mal d'aînés autour de la table, on a aussi pas mal de jeunes, mais pour vous, que représente la gratitude ?
Ben pour moi, c'est déjà le remerciement, hein, de dire merci et d'apprécier, d'avoir du respect, de partager ce que nous, on aime à d'autres. Pour on peut passer parce que c'est gratuit et puis ça fait du bien quoi. Ça fait du bien par où ça passe.
Oui, c'est vrai, ça fait du bien par où ça passe. D'ailleurs, je me demandais, gratitude, est-ce que c'est en lien avec l'action de grâce ? Moi, je me dis, il y a l'action de grâce. Alors, je ne sais pas, moi, je ne suis pas très, très au fait de toutes les coutumes ou religions. Alors, je ne sais pas si quelqu'un autour de la table, Christine ?
Gratitude, grâce, gravelé, tout ce qui c'est. Y a, dans le français, il y a les préfixes, la racine et le truc. Et là, c'est tout au même niveau.
C'est tout au même niveau. Bon, j'espère que ça ouvre. Alors, on a une nouvelle personne qui est arrivée pendant le début de notre émission. Bonjour, vous pouvez prendre le micro, oui. Bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous appelez ?
Je m'appelle Marie-Catherine Barès.
Ah, notre fameuse artiste qui va venir après pour l'interview. Bonjour Marie-Catherine Barras, merci de nous rejoindre
à
notre table. Et puis on aura l'occasion de discuter un petit peu sur votre parcours. Mais maintenant que vous avez le micro, après avoir entendu finalement ce positionnement, cette définition personnelle, pour vous ce serait quoi quand on vous dit de la gratitude, ça vous évoque quoi ?
Je pense qu'on a un peu fait le tour avec tout ce qu'ils ont dit, mais effectivement, être dans le remerciement et aussi dans le partage finalement de ce ressenti, afin qu'il devienne plus grand et plus important. Voilà.
Eh ben, merci déjà pour ça. Christine, bien sûr, vous avez le droit.
Vous êtes l'arrière-petite fille de Bertrand Barras.
Oui, exactement.
La sœur de...
Enfin, la petite fille du coup, exactement.
Mais vous avez quatre frères et sœurs.
Non, j'ai une sœur, du coup. Sa maman, elle est arménienne, du coup.
Ah, oui. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on...
C'est ma cousine.
qu'on puisse revenir autour après, après le, quand ce sera le moment de l'interview. Je pense que ça va être intéressant de pouvoir échanger autour de, bah, de vos origines et de votre parcours.
Avec plaisir.
Gratitude. Christelle, est-ce que vous avez envie de poursuivre ? Est-ce que vous avez encore envie de donner peut-être le mot de fin ? Ou Christine, je ne sais pas aussi, qui est là, qui, on lui donnera le micro après. Christelle.
Moi, je dirais que la gratitude, pour moi, c'est aussi donner sans rien attendre en retour, en fait.
Donner sans rien attendre au retour. Ouais. Christine.
J'ai un petit peu de la peine à être objective avec la gratitude parce que je suis dans un état d'esprit qui est assez négatif. Et malgré ça, j'essaye quand même de trouver des pistes pour sortir de ce mal-être et essayer de trouver quand même des points positifs dans ce qui m'arrive.
Oui, mais c'est bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est important aussi dans le rétablissement de pouvoir aussi de se redéfinir aussi pas seulement sur ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, ce qu'on n'est pas ou ce qui est difficile, mais aussi de se dire bah voilà, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma journée, qu'est-ce que j'ai acquis, qu'est-ce que j'ai amélioré pour essayer d'avoir toujours cet espoir qui nous tire vers l'avant. Christine.
Alors j'ai beaucoup de gratitude, beaucoup de respect. J'ai dit 1000 fois merci à Mademoiselle Barras. Parce qu'elle allait dans les homes chanter l'opéra.
Ah, bah ça c'est bien.
Ah, c'est pas vous.
Ah non, alors c'est pas.
C'est la cousine, du coup.
C'est l'occasion de remercier.
Elle sera très touchée.
De remercier votre cousine, comment elle s'appelle ?
Elle s'appelle Laure Barrès.
Alors, on remercie Laure Barrès bah, pour tous ces moments qu'elle a certainement apporté de gratitude, de bons moments à travers ses chants lyriques.
Ah ouais, elle fait de l'opéra.
Alors, on a beaucoup parlé de la gratitude, mais est-ce que vous avez rencontré des gens ingrats dans votre parcours ?
Oui.
Comment ça, Yaksa ? Alors, je vois que ça se bouscule au portillon. Christine,
déjà vous dites c'est, déjà c'est parlé.
Si vous voulez prendre
les
position.
Gens, maintenant, sur... c'est une société de merde. Ils sont intéressés par le cul, le fric et la baise. Heureusement que Nostradamus a fait des prédictions que moi j'ai réussi à interpréter et que ça commence gentiment à changer.
Oui.
Parce
alors,
qu'on est décadent dans notre société.
Alors c'est une vision qui vous est personnelle, qui est celle qui est la vôtre, on la respecte, mais heureusement il y a quand même notre société effectivement des fois ne prend pas toujours le bon chemin et on le verra peut-être dans le thème de l'éthique aussi finalement, mais heureusement il y a aussi des gens qui font de belles choses. Christelle, quand j'avais posé la question, est-ce que vous avez rencontré des gens ingrats dans votre vie ?
Au cours de ma vie, j'ai rencontré des personnes ingrats et qui était dans le non-respect, dans la violence j'ai vécu aussi l'abandon par rapport à certaines personnes à qui j'ai beaucoup donné et rien reçu en retour sans attendre pour autant quoi que ce soit, mais j'appelle ça de l'ingratitude, oui, en quelque sorte.
Et ça vous est pas déjà arrivé qu'on fasse des choses pour vous, mais que vous soyez pas dans un état de pouvoir remercier ou valider ce qui avait été fait parce que finalement c'était pas le moment où il y avait d'autres choses qui se passaient. Et finalement, est-ce que c'est réellement de l'ingratitude, Christelle ?
Alors l'ingratitude. Alors bon, ouais, c'est assez vaste comme sujet, l'ingratitude. Moi, en ayant des problèmes de santé mentale, je suis dans la gratitude. Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude par rapport au personnel infirmier dans le pavillon dans lequel je suis. Et j'ai eu des soins qui correspondaient. J'étais dans la colère et dans le mal-être à ce moment-là et dans la gratitude de l'injection. Mais en fait, il y en avait vraiment besoin.
Ouais. Bah, ça me permet, avant qu'on passe avec notre pause petite musicale, c'est de prendre le temps de donner ma gratitude envers tout le personnel soignant de l'hôpital. Je dis bien tout, mais pas que, hein, que ce soit aussi les personnes qui sont en intendance, au jardin, mais aussi entre vous. Je vous remercie parce que moi, je vois qu'il y a beaucoup de solidarité entre vous aussi, entre les patients. Je vous remercie en tout cas de prendre ces moments-là pour vous soutenir, pour vous épauler. Merci à tous ceux qui œuvrent à ce que nous puissions vous aider à vous rétablir au mieux jour après jour. On se quitte un court instant avec la chanson du groupe Grateful Dead qui s'intitule Althea. Told me. De retour sur les ondes de Pavillon Nomade, il est exactement 15h48. J'espère que vous avez déjà passé un bon moment entre notre compagnie. En tout cas, c'était super de voir un petit peu ces différentes réflexions, positionnements autour de la gratitude. Je vous en remercie encore pour ce beau début d'émission. Bonjour Marie-Christine Barras.
Bonjour.
Bienvenue autour de nos tables à notre émission Pavillon Nomade. D'où vous venez ?
Alors moi, j'ai grandi à Crans-Montana. Donc, je suis moitié valaisanne et moitié arménienne, parce que ma mère est du coup arménienne d'Iran. Et voilà. Et ça fait 7 ans que je vivais à Paris, du coup, pour faire mes études.
7 ans à Paris, oui. Vous faisiez des études de...
Pas d'art, du coup, mais de philosophie. Et après, j'ai fait de la philosophie de l'art pour mon master, ce qui a aussi confirmé mon choix de vouloir me diriger vers une direction purement artistique.
Ben merci déjà de prendre part à notre émission. Qu'est-ce qui vous a amené ici au quartier culturel de Malévo ?
Alors en fait, durant le mois de février, j'ai fait un stage d'observation ici d'une semaine. Je ne connaissais pas du tout ce qui se passait ici. Et du coup, j'ai découvert un lieu un peu hors du temps, un lieu assez magique. Et du coup, par la suite, j'ai eu l'opportunité de travailler ici cette semaine.
Alors, ça fait ce mois, oui, j'allais dire cette semaine parce que vous êtes à la fin du mois.
Exactement.
Vous avez proposé différents ateliers, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous avez proposé et comment se sont articulés ces ateliers ?
Alors, en fait, le mardi et le mercredi, on était deux en fait pour tous ces ateliers avec Capucine, du coup, une autre artiste. Et le mardi et le mercredi, c'était des ateliers avec les patients de l'hôpital. On a proposé différentes choses, dépendamment de ce que chacun voulait faire. Donc, soit des ateliers de modelage, donc par exemple avec de l'argile autodurcissante, soit du moulage, donc de mouler sa main ou une partie de son corps. Ou encore, on a fait beaucoup d'expériences avec de l'encre et de la mousse à raser. C'est assez abstrait. Du coup, ça laisse assez libre cours aux personnes qui n'ont pas forcément d'inspiration, en fait. Du coup, et le résultat est assez satisfaisant.
Et là, quand vous dites que vous avez fait des ateliers pour des gens ici,
oui.
Et puis pour des personnes de l'extérieur, oui. C'était les mêmes ateliers que vous proposiez ou c'était complètement différent ?
Pas exactement, mais c'était un peu dans la... Enfin, la seule différence, c'était que le jeudi et le vendredi, c'était des personnes de l'AI qui venaient. Et du coup, avec eux, on devait avoir un projet final qu'on doit finaliser pour la semaine prochaine et éventuellement l'exposer au quartier culturel.
Ah, alors, on aura l'occasion de pouvoir voir
oui,
le rendu.
Exactement.
Alors, est-ce qu'il y a des gens, des participants autour de la table qui ont eu l'occasion de participer aux ateliers de Marie-Christine Barras ?
Oui, moi, j'ai participé plusieurs fois et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'était très libre. Par exemple, je me suis occupée d'une bande dessinée. Elle m'a aidée à finaliser le projet et à faire un des personnages en terre d'argile que j'aurais pas pensé à ce moment-là. Et puis, moi, je voulais lui demander aussi si sa pratique artistique avait changé ou évolué au contact de l'environnement de Malévo.
Pour répondre à cette question, je pense que pour l'instant, il faut un peu que toute cette expérience macère à l'intérieur de moi, parce que c'était quand même très dense, vu qu'il y avait 4 ateliers par semaine. Donc, je n'ai pas tellement eu le temps de créer à côté de cela. Et je pense que je me suis juste beaucoup nourrie de toutes ces rencontres. Et je pense que je verrai par la suite ce qu'il adviendra de tout cela.
En tout cas, merci, c'était vraiment génial.
Bah, merci à toi, Christine.
Est-ce qu'on aura l'occasion de voir peut-être le travail de Christine qu'elle a fait ? Est-ce qu'il sera exposé ? Est-ce qu'il sera visible ?
Je pense qu'elle l'a pris avec elle. Ouais, exactement. Mais il y a d'autres choses qu'elle a fait, pas en atelier, qui sont ici aussi, à la buvette.
Ah, merci.
Qui sont à la buvette.
Véronique.
Alors, moi, je n'ai pas participé malheureusement aux ateliers. Enfin, je suis arrivée il y a une semaine et je vais bientôt repartir. Et malheureusement, ça ne correspondait pas avec les rendez-vous que j'avais. Mais j'ai pu voir un ami, justement, avec qui tu as pu, si je peux me permettre, tu as pu travailler. Et effectivement, ça m'a donné envie, une fois arrivée à la maison, de repartir dans les matières à toucher, de recréer et de m'évader avec l'art, finalement. Donc, je n'ai pas participé, mais juste de voir en fait, ce que mon avis avait fait, ça m'a donné envie. Donc, même si je n'ai pas été directement avec toi, tu m'as transmis quelque chose indirectement.
Ah bah super.
Et sinon, j'avais une autre question. As-tu découvert de nouvelles sources d'inspiration ici ?
Bah, je pense que c'est la même chose, un peu, la même réponse. Je pense juste, ouais, je me suis nourrie de toutes ces rencontres et je ne pourrais pas trop répondre à cette question encore. Mais je dirais que, par exemple, Capucine, avec qui on a fait les ateliers, ça m'a beaucoup aussi nourrie d'organiser tous les ateliers avec elle et de m'inspirer aussi de sa pratique, qui est peut-être plus photographique aussi et plus sur les archives. Et en fait, moi, j'ai pas encore... je vais commencer une formation artistique l'année prochaine. Donc, je pense que je vais avoir le temps à ce que tout ça se nourrisse. Avant ça, j'avais une formation beaucoup plus personnelle que professionnelle. Du coup, voilà.
D'ailleurs, votre première profession, vous m'aviez dit au début d'émission, c'était...
J'avais fait de la philosophie. La philosophie. Durant 5 ans.
D'ailleurs, comment on passe de la philosophie à, finalement, à un domaine qui est complètement... Alors, est-ce que la philosophie, c'est de l'art aussi, peut-être ? On pourrait se poser la question. Mais quel est votre parcours artistique et comment vous avez commencé ? Et qu'est-ce qui a fait que vous soyez passé de la philosophie au domaine artistique ?
Bon, en fait, dès le début de mes études, j'ai beaucoup, beaucoup peint. C'était assez cathartique, thérapeutique dans la façon dont j'apprivoisais du coup la peinture. C'était vraiment beaucoup de peinture, pas du tout de dessin. Et j'avais vraiment besoin de m'exprimer. Et là, ça s'est beaucoup plus affiné, je dirais. Et maintenant, je fais beaucoup plus de sculpture. Du coup, oui, enfin, ça a vachement évolué au cours de ces cinq années de philosophie, je pense. Ça s'est venu nourrir ma recherche artistique.
Et comment vos proches, ils ont perçu ces changements, notamment vos parents, peut-être, qui vous voyaient peut-être avoir une certaine carrière et puis finalement vous bifurquer sur d'autres routes ?
Bah, honnêtement, ils étaient assez contents et fiers parce que je pense que j'étais un peu perdue quand j'ai aussi commencé mes études en philosophie. Je n'étais pas trop sûre de pourquoi je le faisais, mais je savais que ça m'intéressait énormément. Et du coup, je me sens vachement mieux dans ce domaine plus artistique et aussi social en même temps et humain d'échange. Oui.
Mais c'est important ce que vous dites, parce que quand on parle d'apprendre à se redéfinir dans tout au long de sa vie et de son parcours, c'est aussi pour les personnes qui sont autour de la table ou ceux qui nous écoutent, qu'il n'y a pas de moment pour changer de voie, pour finalement, des fois on peut avoir peur de se dire oui mais bon, ça ne va peut-être pas faire plaisir à papa, maman, ou peut-être ça va inquiéter mon conjoint ou ma conjointe, ou que vont dire les amis, et puis on se freine des fois de découvrir d'autres passions. Bah, vous êtes l'exemple aujourd'hui autour de étape que oui, c'est important des fois aussi de se dire bah tiens, j'ai fait un parcours et aujourd'hui j'ai envie de me découvrir autrement et puis de vous voir comme ça inspiré et de voir aussi ce que vous faites vivre à Véronique ou à Christine. Je trouve que vous avez fait un bon choix. Vous dites Christine,
quand j'ai su qui c'était, ça m'a fait un choc.
Pourquoi ?
Parce que je revois mon papa qui restait quand même 15 ans dans une maison de retraite. Il attendait le passage de la cantatrice.
Ah, la cousine, la fameuse cousine, on parlait tout à l'heure en off, votre cousine qui est cantatrice et qui chante dans les EMS.
Oui, exact. Ouais.
Mais elle chantait l'opéra, hein, c'était pas... Nya, 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 nya. Non, c'était le coffre.
Oui, elle est assez douée, ma cousine, dans ce qu'elle fait.
Et par rapport à la peinture, vous êtes plutôt Soulage, Niki de Saint-Phalle, Van Gogh?
Ben, j'aime bien Niki de Saint-Phalle, justement. Oh, j'aime beaucoup Niki de Saint-Phalle dans ses sculptures. Et sinon, enfin, j'aime énormément de choses. Je pense que je me nourris de beaucoup de choses.
Oui, moi j'aime tout.
Je pourrais pas trop donner.
Pareil, pareil. Je voudrais bien être votre marraine.
C'est touchant en tout cas. Marianne.
Alors moi, j'ai pas eu l'occasion de participer à un de vos ateliers, mais j'avais une question. C'était est-ce qu'il y a une œuvre, un moment, une rencontre marquante que tu souhaiterais partager?
Je pense qu'il y a une œuvre qui m'a assez marquée. C'est une artiste polonaise qui s'appelle Alina Chapochnikov. Elle avait été exposée à la Bourse du Commerce à Paris. Et en fait, elle travaille à partir de différents fragments. Donc, elle va mouler aussi des parties de son corps et elle va en faire un tout qu'elle va assembler dans une œuvre. Et j'aime bien cette idée d'assembler différents fragments pour en faire un tout, d'assembler des choses qui ne devraient pas forcément être ensemble. Et ouais, j'aime bien cette idée, ça m'a beaucoup inspirée, là, dans ma pratique de sculptrice, entre guillemets, parce que j'aimerais bien me diriger vers cette voie.
C'est Christine.
J'ai un appartement à la Grande Boîte et je suis toujours fourrée dans les expositions. J'ai pris des photos d'un artiste qui monte. Il est assez space, mais en étant amélioré pour être génial. Si vous me donnez votre 06, je peux vous les envoyer.
Okay.
Alors on vous laissera peut-être en off vous échanger les coordonnées. Moi, j'avais une question. Quelle est, selon vous, la place de l'artiste dans la société actuelle et dans un lieu comme celui-ci, ici, au cœur, déjà à travers le quartier culturel de Maléo, mais surtout au cœur d'un hôpital psychiatrique?
Je pense que c'est une question assez complexe. Mais je dirais que l'artiste peut peut-être permettre de faire voir le monde, percevoir, c'est un meilleur mot, percevoir le monde d'une différente façon et peut-être de sublimer un peu les choses qui nous entourent et aussi de créer du lien. Je pense que c'est super important de créer du lien et peut-être qu'à travers l'art, à travers ce médium, on peut créer du lien plus facilement aussi, je dirais.
Merci. Oui, alors Mariana.
Moi, je trouve dans un lieu comme celui-ci, l'art, ça permet d'exprimer des émotions qui ont été réprimées.
Ouais, très juste.
Oui, c'est des fois on peut dire c'est l'objet transitionnel qui nous permet d'être un peu protégé comme ça, de pas, on pourrait dire de se, comment dire, pas se livrer à nu directement, mais presque, mais se dire tiens, en passant à travers l'art, la peinture, l'objet, je me dévoile, mais de manière peut-être un peu moins directe et qui est peut-être un peu plus facile pour certains, hein, parce que j'imagine que tout le monde n'est pas habilité, on n'a pas l'envie. Prenez seulement un micro, Jean-François, vous disiez.
Être nous-mêmes, parce qu'on a quand même une belle aisance de chacun pour pouvoir s'exprimer, quoi, je veux dire. Personne ne juge ici. Ben voilà, ça fait vraiment partie de la gratitude et du respect. Et je pense que c'est fructueux quand on peut l'exprimer et puis quand on peut l'exprimer quoi, en tant qu'artiste. Sortir les vérités, sortir les. Je crois que toute personne.
Alors, juste un instant, Christine, on laisse revenir Jean-François, puis après, on vous donnera un micro.
Je pense qu'on est tous des personnes qui a eu un choc émotionnel et qui a besoin de partager et s'enrichir de chacun.
C'est vrai, je pense que c'est aussi ça, hein, le partage et s'enrichir, échanger,
sans jugement,
en respectant l'autre.
On n'est pas livré à nous-mêmes, disons, mais on a nos petits moments de solitude, mais on a besoin de communiquer, on a besoin de prendre ce qui nous fait fleurir, quoi.
Merci. Samuel, vous aviez une question, vous vouliez poser une question.
Ouais, j'avais une question. Quels sont vos projets pour l'avenir?
Alors là, en fait, l'année passée, j'ai essayé de passer beaucoup de concours pour les écoles d'art et du coup, j'ai été admise aux Beaux-Arts de Marseille. Donc là, en septembre, je vais partir à Marseille et commencer une formation purement artistique. Voilà.
Et puis sinon, j'avais pu participer deux fois aux
ateliers.
Ouais, aux ateliers. Et puis j'avais fait la mousse à raser, puis ça m'avait pas mal plu quand même.
C'est-à-dire, quand on dit j'avais fait la mousse à raser, c'est vous qui faisiez la mousse à raser?
Non, j'avais fait un dessin avec ça, avec cette technique-là. Oui. C'était assez original.
Ouais, alors je vois pas du tout. C'est vrai que là, ça doit interpeller pas mal de gens qui nous écoutent. Comment ça se passe là?
En fait, quand je vous parlais d'expérimentation, c'était ce type de choses qu'on a faites. En fait, c'est de venir mettre de l'encre sur de la mousse à raser dans un, enfin, on a un contenant, on met de la mousse à raser à l'intérieur, puis on vient mettre de l'encre dessus. On fait des dessins avec un dos de stylo, par exemple. On vient mélanger cette encre. Et après, on vient tapoter une feuille sur ce contenant, qu'on retourne. Et ensuite, on vient racler tout le surplus qui est sur la feuille. Et ça donne justement un résultat très abstrait. Parfois, on peut deviner des visages, des choses à l'intérieur. Et c'est très satisfaisant comme processus.
Alors, est-ce qu'on a un lieu, un endroit, peut-être un site où on pourrait découvrir le travail que vous faites?
On pourrait essayer de mettre ça peut-être sur un site. En tout cas, pour l'instant, ça l'est pas. Mais c'est dans l'atelier, l'atelier derrière où on donne les ateliers, du coup.
Ouais. Il y a beaucoup. Ouais. Et là, vous allez exposer aussi à partir de quelle date?
Je pense à partir de la semaine prochaine pour l'atelier du 6A. Donc, c'est l'atelier du jeudi, vendredi. Et c'est un très grand collage, ce qu'on fait avec eux. Et dans ce collage, il y a certains dessins de ce type, certains travaux de ce type.
Alors, si vous êtes intéressé à venir voir le travail de Catherine, oui, parce que c'est la fête des Christines, alors j'ai envie de fêter aussi à vous, Catherine Barras. Vous venez au quartier culturel à partir de la semaine prochaine et on peut voir les œuvres qui seront vous dirigées à la buvette et puis vous demander où c'est, puis l'équipe vous aiguillera. Véronique.
Alors, je voulais juste rebondir. Avant, on a dit justement que l'art, c'était exprimer ses émotions sans forcément utiliser le verbal. Est-ce que pour toi, il y a de l'art, en fait, que ce soit du modelage, de la peinture, est-ce que pour toi, il y a une manière, en fait, un art particulier qui peut être plus fort qu'un autre, ou est-ce que c'est propre à chacun?
Pour moi, c'est vraiment propre à chacun, parce que même la cuisine, c'est une forme d'art. Enfin, dans beaucoup de choses, il y a de l'art, et c'est ce avec quoi on se sent le plus sensible, je pense. Mais c'est vrai que le fait de faire ensemble, des fois, il y a un peu des choses magiques qui se passent, parce que le fait d'être dans un processus créatif et juste de faire quelque chose, je pense que c'est ça la chose la plus importante. Et des fois, on exprime des choses sans même y penser, sans même vouloir les exprimer, et ça sort de soi. Et je pense que, ouais.
Mais c'est vrai, quand vous dites la cuisine, ça peut être aussi de l'art. Alors, je ne veux pas faire de la pub pour les émissions, mais il y a une certaine émission qui passe sur une des chaînes françaises où, des fois, ça ressemble vraiment à des tableaux. Ouais. Quand on voit la composition des couleurs, des formes, et des fois, les prises de vue qui sont faites dessus, des fois, on se dit, mais pourquoi aller manger ça? Pourquoi pas le laisser de manière intemporelle? Alors, je ne dirais pas intemporelle comme le fameux... alors, peut-être c'est de l'art aussi, comme le fameux burger, je ne citerai pas non plus la marque, mais qui a été mis sous cloche et qui est toujours intact après je ne sais pas combien d'années. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça, hein. Alors peut-être c'est de l'art. Alors on a vu de l'art aussi, on parlait de nourriture. J'avais trouvé ça pour me dire à quel point c'est très vaste. Hein, cette personne qui avait accroché cette banane contre un mur et puis qui avait fait... vous en souvenez, hein. Donc oui, finalement tout peut être de l'art, tout dépend comment on le conçoit et comment on le met. Christine.
Quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu en Suisse allemande, je crois que c'était dans le Bintal. Ils avaient fait un jeu et sur chaque arrêt, ils avaient mis des vaches avec des boucles d'oreilles collées. Après, il y avait le food truck et des trucs comme ça. Alors moi, j'ai mon maillot aux toilettes où mon mari a les abeilles. Si jamais vous voulez un endroit... Et quand ma petite fille est morte, il y avait une baignoire avec plein de petites bougies.
Alors, on a une belle pensée pour vous, vos proches. Christine, on va peut-être faire la dernière question parce que je sais que Marie-Catherine Barras, vous allez enchaîner direct après l'atelier.
Oui, exact.
Mais moi, ce n'était pas une question, c'était un merci parce que tu es une personne extraordinaire, très ouverte, vraiment à l'écoute des autres et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi.
Merci beaucoup, Christine, moi aussi. Vraiment.
Je me rejoins aux remerciements vu qu'on avait commencé avec la gratitude. Merci Marie-Catherine Barras d'être venue. Merci d'avoir partagé avec nous votre parcours. Et puis, on a hâte de venir découvrir la semaine prochaine le travail qui a été fait dans le cadre des ateliers CISA. Bonne fin de journée à vous. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants après la chanson du groupe Black Sabbath et non pas Black Sabbath comme j'aimais dire en off, avec le titre qui s'intitule Paranoïde. Alors, après ces petits problèmes techniques, on revient directement sur les ondes de Pavillon Nomade. Il est 16h06. Hein, après cette musique, une fois qu'elle sera lancée, on va aborder le thème sur l'éthique, un thème qu'on n'avait malheureusement pas pu aborder lors d'une ancienne émission. Donc, on se retrouve dans quelques instants après ce fabuleux titre de Black Sabbath intitulé Paranoïde. De retour sur les ondes de Pavillon Nomade après cette petite incursion de Ozzy Osbourne au début de chanson. Je pense que c'était sa manière à nous de dire mais non, je suis toujours là, regardez, c'est moi. On a une belle pensée pour lui, hein. Il est décédé mardi. Merci Julien. Mais d'ailleurs, je profite pour remercier Julien, notre technicien qui est là aujourd'hui. Merci à vous de nous permettre d'être en direct sur les ondes de Pavillon Nomade. Et une petite pensée pour Ozzy Osbourne. On aborde la dernière partie de notre émission avec un thème. Il y a quelques semaines, nous avions laissé en suspens le thème de l'éthique. Je vous propose que nous le reprenions aujourd'hui. L'éthique, un mot qui semble sérieux, peut-être un peu lointain, et pourtant, elle est là, dans nos gestes quotidiens, nos silences, nos choix, petits ou grands. Faut-il dire la vérité quand elle blesse, fermer les yeux ou intervenir quand on est témoin d'injustice? Peut-on vivre en paix avec soi-même quand on fait des compromis dans un monde en perpétuel mouvement où les repères semblent parfois flous? L'éthique nous sert-elle encore de boussole ou est-elle devenue un luxe réservé à ceux qui ont le choix? On commence tout de suite avec cette question simple. Qu'entendez-vous quand vous entendez le mot éthique? À quoi pensez-vous? Alors, je m'adresse à vous autour de la table. Alors, Christine.
Bonsoir, je m'appelle Christine. J'ai fait un cours de psychoéthique. Et ils étudiaient la façon dont les insectes, les fourmis et les abeilles vivent d'une façon éthique. Il n'y a pas de différence entre le bourdon qui ne fout jamais rien et la reine qui pond toute la journée. Et tout le monde se respecte. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien. C'est aussi simple que ça.
Donc on pourrait dire que pour vous, une des premières définitions, en tout cas, ce serait se respecter. Hein, je ne sais pas. Jean-François, quand vous entendez le mot éthique, à quoi
oui,
pensez-vous ?
Oui, complètement, le respect de soi et des autres. Ouais, je sais pas.
Oui, respect de soi et des autres. Alors, je ne sais pas, pour Mariana, Véronique, qui vous êtes là présente, pour vous, quand vous entendez ce terme éthique, ça vous fait penser à quoi ?
Alors, moi, éthique, ça me fait penser à nos valeurs, au respect de nos valeurs, tout simplement.
Oui, c'est vrai, le respect, on a dit, ouais. Je vois Véronique hoche de la tête, Véronique.
Oui, je suis entièrement d'accord avec Mariana. Effectivement, il faut être en accord avec ses valeurs, faire les choses juste, ce qu'on trouve juste, ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, et respecter, en fait.
Oui, c'est vrai. Le respect, l'impartialité, l'équité, hein, ça, c'est des valeurs propres de l'éthique. D'ailleurs, je suis allé voir sur Internet un petit peu, et notamment sur le Robert, hein, Micro-Robert, pour savoir un petit peu quelles étaient les définitions. On trouve ces sciences de la morale, ouvrage de la morale. D'ailleurs, il cite le livre de Spinoza, l'éthique. En deuxième, c'est ensemble des conceptions morales de quelqu'un d'un milieu, et puis dans les adjectifs qui concernent la morale, qui intègrent des critères moraux dans son fonctionnement. L'éthique ou philosophie morale est une discipline philosophique portant sur le jugement moraux. Elle examine les questions normatives concernant ce que les individus devraient faire, ainsi que les questions méta-éthiques sur la nature même de la mortalité. Pour vous, qu'est-ce qui est juste ou injuste? Parce que finalement, quand on parle d'éthique, on parle souvent comme ça de sentiments de justesse et d'injustice. Pour vous, qu'est-ce qui serait juste ou injuste, Mariana?
Eh bien, moi, en tant que personne qui a été harcelée la plupart de ma scolarité, quand je revois des gens qui sont dans l'injustice, eh ben, j'ai envie d'aller vers eux et de dire qu'ils ne sont pas seuls. Et j'ai envie de les défendre parce que j'aimerais pas que d'autres personnes se retrouvent à la place où j'ai été quand j'ai été harcelée.
Merci de vos témoignages. Merci aussi des pistes que vous donnez aux personnes qui seraient confrontées à ces événements comme vous avez vécu. Pour les autres, qu'est-ce qui serait juste ou injuste, Véronique ?
Alors moi, le mot qui me vient avant tout, c'est le mot respect. Donc pour moi, s'il y a du respect, si ça tient dans nos valeurs, si on respecte les valeurs de l'autre, c'est quelque chose qui peut être éthiquement acceptable. Mais c'est vraiment le mot respect qui, moi, me résonne quand on parle d'éthique.
Ouais. Et puis, est-ce que quelqu'un a déjà dû prendre des décisions difficiles dans le sens où, ma question, est-ce que faut-il toujours dire la vérité même si ça fait mal?
Non.
Alors, j'entends un non, Christine.
Non.
Alors, qui c'est qui prend le micro en premier? Alors, on a... comment vous appelez? Vous venez de rejoindre la table, bonjour. Quel est votre prénom?
Je m'appelle Carlos Lopez.
Bonjour Carlos, bienvenue à l'émission Pavillon Nomade.
J'ai une vague idée de ça, et puis je ne me trouvais pas à ce point-là. Je vois que c'est une jolie compagnie, une jolie harmonie, et puis voilà quoi. Et je vais tout dire.
Oui. Je posais la question, est-ce que c'est toujours bon finalement de dire la vérité ou non?
Oui.
Laisser le temps hein, déjà.
Oui. Moi, je ne suis pas un mentor, et puis je dis en face la vérité.
Même si elle fait mal?
Même si elle fait mal. Même si elle fait mal aux gens, je m'en fous pas mal.
D'accord. Alors, on a Véronique qui a aussi envie de rebondir sur cette question. Faut-il toujours dire la vérité, même si ça fait mal?
Alors, moi, directement, ça me fait rebondir et ça me fait penser à la passeur de Socrate, qui dit clairement, est-ce que c'est juste ce que tu dis? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va apporter quelque chose à la personne? Et est-ce que c'est utile de le dire? Donc, à partir du moment où ça passe, cette passoire-là, je pense que toute vérité est bonne à dire, mais dans le respect.
Ouais. La manière dont on le dit. Mariana, on vous écoute.
Alors, moi, je trouve que c'est toujours bien de dire la vérité. Enfin, personnellement, quand je mentais, après, je me retrouvais dans un conflit personnel. Et puis, après, je trouve qu'il y a des manières, enfin, des façons de dire la vérité pour peut-être moins blesser l'autre personne.
C'est vrai, il y a des manières. Je pense qu'on peut tout dire, mais il y a une manière de dire les choses. C'est vrai. Christine.
C'est ce que je voulais dire en parlant du mensonge diplomatique. Quand il y a des horreurs, s'il y a un bébé qui meurt, on peut toujours dire qu'il s'est endormi, qu'il n'avait pas envie de se réveiller dans ça. Et puis quand il y a des scènes de ménage, mensonges diplomatiques. Il ne faut pas enfoncer le couteau, il faut...
Il faut
essayer de que la personne soit le moins choquée possible.
Ouais. D'ailleurs, quand vous êtes dans des situations comme ça, un petit peu difficiles, parce qu'on fait ça faire ordre aussi à la morale, hein, qu'est-ce qui vous aide à faire un choix quand vous êtes face à un doute moral ? Hein ? Alors, qui c'est qui prend le micro ?
Non, prends-toi.
Alors, désolé, j'ai pas pu écrire votre prénom. Vous, monsieur, vous êtes ?
Lopez.
Carlos. Oui. Ah voilà, Carlos. Carlos, on vous écoute.
Donc, dans ces cas-là, ça peut toucher, blesser la personne. Mais moi, je trouve qu'il faut être direct. Il y a des manières à dire. Il y a des manières à dire. Je suis d'accord tout à fait. Mais la vérité, c'est la vérité. C'est ça qui compte.
Oui. Alors là, on était dans la question d'avant sur la vérité. Mais sur la question, qu'est-ce qui vous aide à faire un choix quand vous êtes face à un doute moral? Quand vous avez un doute sur ça, qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce qui vous aide à finalement peser, le, on pourrait dire, un côté très manichéen, le bien du mal? Véronique.
Moi, là, ça me fait penser à mes enfants. Effectivement, quand il y a des situations problématiques, est-ce qu'il faut leur dire la vérité? Oui ou non? J'ai fait l'expérience de leur cacher, de ne pas dire toute la vérité, de faire semblant, de, comme l'exemple que Christine disait, le bébé s'est endormi, mais finalement l'enfant le ressent. Et pour moi, c'est important d'expliquer la vérité, mais avec les mots qui sont adaptés en fait, à la personne qui est en face de nous. Mais pour moi, c'est très important que, en tout cas, les personnes qui partagent notre quotidien soient au courant en fait, de où est-ce qu'on en est, pourquoi on est comme ça. Ça leur fait mieux comprendre les choses. Et souvent, si on ne dit pas la vérité, la personne se sent coupable de quelque chose et du coup, ça enlève cette culpabilité. Donc pour moi, la vérité est nécessaire de le dire. Il faut juste le dire avec des mots simples et pas trop de détails, juste ce qui est nécessaire pour rassurer la personne.
Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, vous abordez ça sur ce thème des enfants, qui me fait poser cette question. Les enfants sont souvent sur les réseaux sociaux de plus en plus. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux influencent nos choix moraux ? Véronique et Mariana, on vous donnera la parole après, Véronique, Mariana.
Alors, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux. Et puis, des fois, je vois que les réseaux sociaux, ça donne un peu une image négative aux enfants. Et ça les met de plus en plus dans ces trucs de santé mentale et tout. Et des fois, il y a même sur TikTok des vidéos qui parle de traumatisme et tout. Et en fait, ça vient juste encore plus renforcer le traumatisme de l'enfant et le mettre encore plus dans son mal-être, je trouve.
Mmh, merci. Véronique ? Parce que Véronique, vous êtes maman.
Oui, je suis maman de trois enfants.
Combien d'enfants, ils ont quel âge ?
Trois enfants, 10, 8 et 6, mais c'est interdiction aux réseaux sociaux.
Oui, donc j'allais dire ils sont dans un âge où ils peuvent déjà comprendre le bien, le mal, la morale, la notion de l'éthique.
Ils sont très demandeurs. Moi, j'ai beaucoup de discussions, de communication avec mes enfants pour leur expliquer pourquoi ils ont le droit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit. Et effectivement, comme Mariana l'a dit, il y a certains réseaux où, comme TikTok, où il y a carrément des challenges de suicide. Donc, il faut aussi qu'ils en aient conscience que ce n'est pas des jeux, c'est une vie, en fait. Ce n'est pas un concours, il y a une vie derrière. Pour moi, c'est dangereux. Les réseaux sociaux sont dangereux pour les enfants, tout comme les adultes. Moi, je vais simplement vous donner mon exemple. Avant que je vienne ici, je suis allée rien que Facebook, on n'a pas besoin d'aller loin, où j'essayais de faire des recherches sur qu'est-ce qui était bien dans le couple, entre mon mari, entre moi, qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui n'était pas juste. Et à force de faire des recherches comme ça, il y a les algorithmes qui reviennent et qui vous enfoncent finalement dans cette pensée qui n'est peut-être pas la bonne, mais finalement qui vous rappelle tous les jours, dès que vous ouvrez le téléphone, qui vous dit « ben oui, c'est ça qui vous enfonce ». Et finalement, il a fallu que je coupe complètement, parce que même en tant qu'adulte, on peut vite être pris dedans. Alors un enfant, pour moi, c'est...
Mais vous avez raison, certainement que ça influence sur nos choix moraux, parce que quand on a constamment des deepfakes ou autres fausses informations vous preniez l'exemple, Mariana, qui est très touchant, hein, de ces je ne sais plus si c'était Véronique, par rapport à ces challenges qui existent, ouais. Finalement on en fait quelque chose de très immoral, parce que la mort, on ne joue pas avec, et finalement on en fait quelque chose de presque réjouissif, de drôle.
Mais tout à fait. fait.
De bien, et finalement, on en va à changer la morale, et certainement à dire, c'est finalement la question de l'éthique, finalement, de se dire, mais est-ce que ce que je suis en train de faire est bien ou pas bien? Bah, finalement, si tout le monde est content et rigole, et je suis suivi par 150 000 likes parce que j'ai relié une vidéo où j'ai fait le test du foulard, c'est vrai qu'on peut quand même s'imaginer que les réseaux sont quand même, peuvent changer et peuvent être utilisés à des fins dangereuses. Mariana.
Il y a même sur des réseaux où il y a des ados, des enfants qui diffusent des vidéos en train d'harceler d'autres camarades de classe ou de l'école. Et je trouve que c'est pas correct, parce que déjà, rien que le fait de se faire harceler en temps normal, c'est déjà très humiliant, c'est déjà très dur à vivre. Mais quand encore c'est diffusé sur les réseaux et que c'est vu par des milliards de personnes, c'est encore plus traumatisant pour la personne qui a été harcelée.
Mmh. D'ailleurs, est-ce que dans votre parcours scolaire, le mien, il remonte à il y a quelques années en arrière, et on avait d'autres préoccupations comme chaque génération, mais est-ce que vous avez eu des cours, qu'on pourrait dire des cours d'éthique dans les classes, dans l'école? Alors, allez-y, Christine, vous avez eu des cours de morale. C'est intéressant, ça. Parlez-nous-en un petit peu. C'était quoi? Ça consistait en quoi, ces rôles de morale?
Alors, ces cours de morale, on devait commencer par faire un CV, où on était né et quelles étaient nos ambitions pour plus tard, quelles étaient notre façon de gérer les émotions. Et tout était disséqué. On en parlait, c'était civisme et morale en même temps.
Oui, avant, il y avait les cours de civisme, c'est vrai. Moi, j'ai connu les cours de civisme. Vous aussi, Véronique, j'imagine qu'on ne doit pas être très loin de notre génération.
On ne doit pas être très loin.
Je suis de 79.
81,
voilà. On a des générations. Mais les cours de civisme, vous en souvenez?
Je m'en souviens.
J'ai tous les cahiers.
De les avoir eus au programme, mais je n'ai pas grand souvenir du contenu, j'avoue. Ouais.
Ça, il y avait aussi avant les cours sur la politique, surtout. Hein. Il y a plein de choses comme ça que j'ai vu dans le programme de mon fils, hein, qui a 15 ans et ma fille 13 ans. Ça n'existe plus, ou c'est vraiment très rapide. Alors, il y a toujours des cours de religion, hein, où on va parler finalement sur le respect. On va aborder ces thèmes à travers les cours de religion ou autres, mais des cours proprement à notion de morale, respect, d'éthique. Alors, il y a d'autres choses qui se font bien, heureusement. Hein. J'ai vu qu'ils ont des ambassadeurs maintenant, des jeunes qui sont des médiateurs. Hein.
Exact.
Alors peut-être qu'à travers tout ça, et c'est un petit peu comme on pourrait dire masqué là-dedans, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de cours sur l'éthique. Alors je ne sais pas s'il doit y en avoir ou pas, ça sera peut-être le lieu d'un autre débat, mais peut-être vu que le temps avance gentiment, comme dernière question, vu qu'on parlait d'enfants et d'éthique, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à vos enfants ou à la génération suivante sur l'éthique? Avec vos expériences que vous avez eues, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre?
Alors moi, c'est tout simple.
Christine.
C'est la prière de la sérénité.
Pour vous, ça passerait par la prière de la sérénité.
C'est pas un bouquin de 10 000 encyclopédies sur la moralité, l'immoralité et tout le tra-tra-tra. C'est « Mon Dieu, donnez-moi la force d'être serein,
okay.
D'accepter les choses que je peux pas changer. » Et le courage d'en avoir la différence.
Eh ben, merci pour cette première piste. Mariana?
Alors moi, le conseil que je donnerais, c'est de toujours respecter ses valeurs et de ne pas changer pour les autres. Parce qu'au final, quand on change pour les autres, on finit par se perdre nous-mêmes. Et c'est pas ce que je souhaite pour la génération future.
Ouais. Bah, ça fait plaisir de voir un engagement de votre jeunesse, parce qu'on parlait de la même génération. Vous êtes une génération autour de la table qui est un peu plus jeune que la moyenne. Merci en tout cas d'avoir partagé.
Moi, j'aimerais dire,
Jean-François.
Éthique ou vérité, ça peut être aussi de l'amour pour la personne qu'on a en face de nous, qui n'arrive pas à... Il y a une vérité, mais il faut que ça se dise.
Ouais. Alors c'est vrai qu'on fait... Allez-y Véronique, prenez seulement le micro, on vous écoute.
Quand on parle d'éthique, là, si je peux revenir justement concernant les réseaux, tout ça, de nos jours, maintenant à l'école, enfin pour mes enfants en tout cas, ils leur parlent de plus en plus des réseaux, des médias, des temps d'écran. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est du papier sur lequel on peut s'appuyer puis bien expliquer aux enfants, parce que c'est bien beau de leur expliquer c'est pas bon pour toi, mais ils ont besoin de comprendre pourquoi c'est pas bon pour eux.
Ouais, ils ont besoin d'être accompagnés.
Ils ont besoin d'être accompagnés, et puis que c'est pas une simple interdiction parce que maman elle est moins cool qu'une autre. C'est pas pour rien, maman elle te protège. Maman elle te protège parce qu'il peut avoir ça comme conséquence. Donc c'est important pour moi d'expliquer aux enfants que c'est pas une simple interdiction, c'est une interdiction pour son bien.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, quand on parlait en début d'émission de gratitude et sur ce thème de l'éthique, ça me fait penser, et d'enfant, ça me fait tout de suite un lien d'un film que j'avais vu il y a pas mal d'années en arrière. C'était avec le petit acteur, je crois que c'est Michael A. Culkin, hein, qui avait fait aussi Le Sixième Sens. Et j'étais touché par ce film, je crois que ça s'appelle Give the Next ou Donne au prochain, où la maîtresse d'école avait demandé dans sa classe de réfléchir de comment améliorer le monde ou comment faire en sorte que ce monde s'améliore. Et puis chacun avait trouvé, et puis lui, il avait décidé d'aider une personne dehors qui était en besoin, hein. Ça pouvait être de mes souvenirs, je ne sais plus exactement, mais ça, je prends l'exemple d'une grand-mère qui doit traverser ou d'une personne qui avait en difficulté et devait être aidée. Il allait l'aider, il lui disait: moi je ne veux rien en échange, par contre je souhaite que toi, maintenant, tu puisses faire la même chose pour trois autres personnes et tu demanderas la même chose. Et puis il avait fait un tableau, sur le tableau à la craie, le côté exponentiel où on voyait lui au départ, et après les trois, et les trois qui donnaient aux trois, et ça partait sur une multitude, bah, finalement, de soutien, d'entraide et d'aide. Alors peut-être que c'est ça aussi, ce lien entre la gratitude et l'éthique. Christine ?
Oui, alors je vais terminer. Je faisais partie d'un groupe, il y a 50 ans, qui s'appelle Émotif Anonyme. C'est le système step by step, et c'est le même concept que Alcoolique Anonyme à Latine. Et ça m'a énormément aidé, parce que on prend une marraine. C'est une amitié impossible, quoi. Et on se rend compte que quand on a fait du mal aux gens, il faut aller faire amende honorable. Et puis bon, c'est comme le chemin de croix, là, les piraguets. Et quand on arrive à l'achoppement, ben, on a toutes nos valises qui sont tombées.
Eh bien, merci. Mais merci Christine. Ce qu'on pourrait dire, c'est que l'éthique, c'est cette petite voix finalement qui nous guide quand il n'y a pas de mode d'emploi. Ce n'est pas réservé aux experts. Chacun de nous y est confronté chaque jour. Poser des questions, douter, chercher ce qui est juste, c'est déjà faire de l'éthique. Et si on s'y mettait un peu plus, peut-être que le monde irait un peu mieux. Donc voilà un petit peu pour la conclusion de son thème. On arrive gentiment. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été avec nous ici en direct. Je remercie tous nos participants du jour d'avoir partagé et témoigner. À jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade, la radio follement normale où les micros bougent autant que les pensées. On se quitte avec la chanson du groupe Men at Work qui s'intitule Down Under. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go.